Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Double Voix, le podcast qui met à l'honneur ces Lyonnais et Lyonnaises qui changent le monde, qui changent notre monde. Je suis Stéphanie Borg en duo avec Julien Verchère pour cette émission coproduite par On Express et Touillon, votre média lyonnais. Longtemps, sa passion a oscillé entre l'archéologie et la peinture. Et puis, comme tous les chemins mènent au musée, elle finira par s'y consacrer pleinement. Un peu pionnière, comme son père dans le domaine de la farine biologique, ou son grand-oncle, le père couturier, à l'origine de l'art sacré, la conservatrice du patrimoine a à son actif la création de 3 musées français, le Goupil à Bordeaux, le Musée national de l'histoire de l'immigration à Paris et le désormais célèbre Musée des Confluences à Lyon. Sans plus attendre, rejoignons notre invitée, Hélène Lafont-Couturier, sa directrice générale, sur le quai du Rhône Express à La Partieu, qui nous attend tout sourire pour un voyage d'un peu moins de 30 minutes. Double Voix, épisode 6, c'est parti.
Bienvenue à bord de Rhône Express, à destination de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry.
Welcome aboard Rhône Express in direction of Lyon-Saint-Exupéry Airport.
Hélène Lafont-Couturier, bonjour.
Bonjour.
Le Rhône Express démarre de La Part-Dieu et vous, quel est le point de départ de cette passion dévorante pour les musées ?
Eh bien, le point de départ de cette passion dévorante, comme vous le dites, vient de l'enfance. Une enfance où j'avais des grands-parents qui étaient à la fois musiciens, qui peignaient, qui étaient attirés par l'art. Ce grand-oncle, effectivement, le père couturier, dont on parlait peu malgré tout, mais qui était présent. Et puis des parents qui m'entraînaient enfant dans les musées, où au départ je rechignais, bien sûr, comme tous les enfants. Et finalement, c'est devenu un besoin dans mon quotidien.
Donc il y a vraiment cet ancrage familial qui est à l'origine de cette passion. Et puis, est-ce qu'il y a un moment clé, une sorte de choc artistique, quelque chose qui précipite tout ça ?
Ben, c'est une histoire de rencontre. De deux rencontres. Il y a une rencontre qui est faite alors que j'ai à peine 15 ans avec une équipe d'archéologues qui fouillait non loin de la maison de mes parents. Et du coup, j'ai été entraînée à la fouille avec eux, bénévole. À l'époque, la législation était différente et on pouvait participer ainsi. Donc j'ai commencé par fouiller et j'ai trouvé l'archéologie formidable. Et puis, une autre rencontre avec Bernard Cesson, qui à l'époque dirigeait le musée d'art et d'industrie à Saint-Étienne. Et j'ai pu assister de façon totalement imprévue à un accrochage. Et j'ai trouvé ça formidable de voir comment on construisait un discours en positionnant des tableaux. Et je suis revenue chez moi en me disant « c'est ça que je veux faire ». Donc j'ai longtemps hésité entre les deux, c'est vrai. J'ai fait des études, j'ai fait l'école du Louvre et l'école des hautes études, une en archéologie, l'autre en beaux-arts et 19e. Et puis, je crois que la passion des musées était plus forte, malgré tout. J'ai eu de la peine à lâcher l'archéologie. Je dois avouer que j'ai continué à fouiller pendant mes vacances jusqu'à la naissance de ma fille, où là, c'est devenu compliqué. Et j'ai abandonné l'archéologie. Mais j'ai toujours un intérêt pour l'archéologie, mais je crois que j'aime avant tout les musées, le monde des musées, le monde des expositions et effectivement la peinture. Je trouve que c'est des lieux où on se nourrit et on a besoin de ça.
Alors c'est une passion tellement forte que vous avez même créé 3 musées. Une performance, une particularité dans le paysage culturel français. Vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Alors c'est vrai que je pense que c'est assez rare d'avoir à son actif 3 musées, 3 créations de musées. Là aussi, c'est une question de rencontre et d'un peu de hasard. Je suis arrivée à Bordeaux sur un premier poste au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux. À l'époque, c'était Chaban-Delmas. Vous allez vous dire que le temps est passé. J'étais toute jeune, jeune conservateur, et j'étais au Musée des Beaux-Arts et une rencontre avec un collectionneur bordelais qui avait une collection incroyable, qui était le fond de cette maison Goupil, dont on a un peu oublié le nom, mais qui on a malgré tout en tête parce que c'est chez Goupil que le frère Théo Van Gogh travaillait. C'est donc un éditeur d'estampes pour rendre l'art accessible qui va créer sa maison en 1821 et qui va exister pendant près d'un siècle, qui va s'implanter dans le monde entier. Et lorsqu'elle ferme, il y a eu deux acheteurs, dont cet homme qui vivait à Bordeaux et qui a ramené le fond de cette collection à l'aide de 8 wagons de chemin de fer. C'est vous dire l'ampleur. Et quand j'ai rencontré cet homme qui allait vendre son commerce, il m'a emmené chez lui, il m'a montré dans un garage, un appartement qu'il louait. J'ai vu toute cette collection incroyable d'archives, de pierres lithographiques, de cuivres gravés et de machines. Et voilà, donc j'ai proposé au maire de Bordeaux qu'on sauve cette collection. Et il m'a dit, OK, mais on en fait un musée. Donc à partir de là, ça a été ma première expérience. Voilà, après j'ai quitté Bordeaux pour le projet de la cité de l'immigration à la demande de Jacques Toubon. Et là, c'était un autre type de projet, puisqu'il fallait écrire un musée à partir d'une page blanche. D'habitude, les musées partent de collections, naissent de collections. Là, il fallait constituer la collection sur une thématique. Et puis, enfin, je suis venue à Lyon pour l'archéologie, pas du tout pour le musée des Confluences au départ. Et en fait, très vite, on m'a demandé de prendre ce beau bateau. Ça a été une aventure incroyable. Et chaque fois, ce sont des aventures humaines différentes, Confluences étant de loin le projet le plus ambitieux que j'ai eu à conduire. Il y avait à la fois ce bâtiment incroyable qu'il fallait faire sortir de terre et finir d'écrire le projet, le conduire à son terme, l'ouvrir. Et surtout, ce qui est formidable, c'est cette rencontre avec le public, puisqu'aujourd'hui, le musée a été adopté. C'est une première reconnaissance par le public.
Et ces trois expériences, finalement, elles se nourrissent les unes les autres pour aboutir à chemin professionnel. Qu'est-ce qui vous a servi est-ce que la première expérience vous a servi pour le musée des Confluences, la seconde
Je crois que toute expérience sert. C'est vrai que la première expérience, j'étais très jeune et heureusement d'ailleurs naïve parce que ce sont des aventures malgré tout passionnantes et éprouvantes. On n'en ressort pas indemne. Et c'est vrai que je crois qu'il faut... Ce que j'ai appris, c'est que, en fait, il faut surtout être sourd et il faut se fixer sur un objectif pour y arriver. Et conduire les équipes sans avoir de doute soi-même, ou en tout cas, on ne peut pas l'exprimer, parce que sinon, vous arrêtez les équipes. Et il y a une forme de magie sur les trois projets que j'ai conduits, qui ont été et sur des temporalités et des ampleurs différentes. Il y a quelque chose qui se passe au dernier moment, c'est-à-dire que la veille, on se dit, mais on va même... Enfin, on n'ose pas penser. Et ça se termine, et on est prêt quand on ouvre. Et ça, c'est quelque chose d'absolument formidable. Après, ce que j'ai beaucoup appris de ces expériences, et ça m'a servi pour Confluence, de pouvoir préparer aussi les équipes un petit peu à ça, c'est que, en fait, on se fixe l'objectif de l'ouverture. Et lorsqu'on ouvre, tout est à commencer. Et là, il faut redemander une énergie folle aux équipes qui, elles-mêmes, sont épuisées d'avoir déjà conduit l'ouverture. Et c'est là où il faut vraiment tenir compte à la fois de cet état un peu de fatigue, qui est réel, et de pouvoir les amener vers autre chose. Et finalement, c'est vrai que c'est ce qui m'a beaucoup servi. Ça m'a servi aussi dans les négociations avec les politiques. Parce que bien sûr qu'on est en lien avec le politique sur ces différents projets. C'est effectivement une belle expérience que j'ai eue et je considère que j'ai eu une chance folle, effectivement, et des rencontres. Mais c'est une histoire de rencontres, chaque fois.
Et est-ce que vous seriez tenté par une quatrième expérience, l'ouverture de musée ?
Alors je pense que d'abord, j'arrive à un âge où je suis plutôt en fin de carrière qu'en début. Je ne sais pas. Pas parce que chaque fois je me dis non, ce sera la dernière fois parce que en fait je pense que c'est difficile de refuser. C'est une telle aventure que d'ouvrir une institution. C'est une forme de voyage aussi.
Donc trois petits points de suspension.
Petits points de suspension. Mais je suis bien à Confluence et je n'ai aucune envie de quitter cette institution.
Alors vous en avez déjà un petit peu parlé. Faire naître un musée, cela peut sembler très différent de fonder une entreprise, par exemple. Mais est-ce que cela l'est vraiment et comment ça se passe-t-il concrètement ?
Alors, créer un musée, c'est à la fois partir d'un projet qu'il faut écrire, c'est constituer une équipe pour conduire ce projet, et une fois qu'il faut penser l'organisation Ben, pour répondre à la fois aux attentes du public, que tout fonctionne, c'est aussi une question de détail. C'est un peu comme quand on construit, je pense, une maison ou qu'on installe son chez-soi. Et du coup, c'est peut-être l'avantage d'être une femme dans ces institutions, c'est qu'on a un regard sur des petites choses de détail, du quotidien, et qui font aussi la différence. Mais en fait, c'est un peu comme une entreprise. Il y a un objectif que l'on doit remplir, cette ouverture au public. Mais pour ouvrir au public, il faut que tous les autres services soient en état de marche. Le visiteur, lui, il a un contact avec les personnes de l'accueil, de la médiation, de la sécurité. Éventuellement, il voit les agents de nettoyage qui passent. Et finalement, il ne se rend pas compte de la machine. Il y a toute une machinerie derrière. Et c'est, c'est une forme d'organisation à mettre en place en tenant compte des métiers, des ressources que l'on a. Et il faut aussi savoir s'adapter comme les entreprises au monde dans lequel on vit. Quand on a ouvert le musée, on avait imaginé, on a 5 salles d'exposition, qu'on allait pouvoir devoir faire des rotations dans nos expositions de façon classique, comme les autres musées, 3 mois, 4 mois, mais pas au-delà. Et très vite, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas le dimensionnement des équipes ni les budgets. Donc on a pris la décision de dire, nos expositions, nous, elles vont durer 10 mois. Et finalement, c'est une décision dont je me félicite tous les jours, qui a été particulièrement pertinente avec le Covid et avec la période actuelle. Une exposition, c'est à la fois beaucoup de travail, c'est aussi de l'argent. Et 10 mois, ça permet à un public de venir, de revenir. Souvent, on n'a pas le temps de pousser la porte pour aller voir les expositions. 3 mois, c'est... Quand on se dit qu'il faut y aller, c'est presque fini. Et ça ne permet pas non plus de revenir, ni le bouche à oreille.
Alors, est-ce que vous pourriez revenir un petit peu plus particulièrement sur la naissance de ce musée des Confluences, cher aux Lyonnais et aux Lyonnaises ?
Alors, ce musée, ce qui est effectivement le plus grand bonheur, c'est de voir à quel point il a été adopté par les Lyonnais. Je prends effectivement souvent les transports en commun, et le tram notamment, qui est juste devant le musée. Et un soir en partant, il y avait un couple de visiteurs qui avait amené des amis, vraisemblablement de l'extérieur de Lyon, et qui parlaient de leur musée. Et je me suis dit, c'est formidable cette adoption pleine de ce musée. Mais c'est vrai que lorsqu'on a ouvert le musée, on a dû tenir jusqu'à l'ouverture, il fallait être prêt. Mais le matin, ce samedi matin, on a ouvert les portes, on ne savait pas s'il y aurait du monde derrière la porte. Ça, c'est le moment très palpitant de... On ouvre au public et on ne sait pas. Et là, quand on était prêts tous dans le hall et on a vu qu'il y avait déjà la queue. Et là, c'est une émotion incroyable. Moi, quand j'en parle, j'ai presque encore les larmes qui montent aux yeux. Et surtout, donc, j'ai ouvert les portes et j'ai pu qu'embrasser le public qui rentrait. Et la première qui est rentrée, c'était une petite fille qui avait une dizaine d'années. Et je me souviens vraiment, c'était... je pleurais, enfin bon, c'était...
beaucoup d'émotions.
Émotion totale. Et voilà, puis après, on circulait partout dans le musée pour voir... puis il y avait encore 1000 choses à faire. Et on vient me chercher parce que la petite fille, au bout de 2 ou 3 heures, devait repartir. Elle était avec sa tante. Et ne voulait pas partir sans m'avoir embrassée. Et donc, il avait fallu... mais c'est un moment fort, si vous voulez, je pense à la fois pour cette petite fille qui a été la première à franchir la porte de ce musée, et pour nous de voir à quel point le public et le public nous remerciait. Longtemps on nous a dit qu'on avait privé 2 générations de Lyonnais de ce musée, et à l'ouverture et très vite les gens nous ont dit merci.
Et finalement ça fait une passerelle avec l'une de vos spécialités, la diffusion de l'art. Vous êtes beaucoup intéressé à cette question-là. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé aujourd'hui avec les évolutions de société, notamment le numérique, les réseaux sociaux, peut-être demain le métaverse ? Comment tout ça vient bouleverser ce rapport à la diffusion de l'art ?
Alors la diffusion de l'art au 19e, ce qui était ma spécialité par l'estampe et puis l'apparition de la photographie, on a une dimension matérielle de l'estampe. C'est malgré tout, même si elle est multiple, c'est quelque chose qu'on a entre les mains, il y a une émotion. Ce que je vois avec le numérique et cette technologie du numérique qui apporte au musée, c'est que ça peut jouer dans la diffusion au niveau de... Parce que ça permet une forme d'immersion. C'est cette capacité finalement assez extraordinaire d'amplifier l'immersion pour le visiteur et donc de l'aider à comprendre une contextualisation, par exemple, de l'objet, d'une émotion qui sera possible par le numérique. Mais pour moi, c'est deux objets différents parce qu'il n'y a pas cette dimension matérielle et sensible que l'on a avec quelque chose que l'on peut tenir entre les mains. Et rien ne remplacera l'objet. Mais c'est quelque chose dont les musées s'emparent aujourd'hui, dont on doit s'emparer, parce que ça permet vraiment cette immersion qui est aujourd'hui nécessaire pour amener le public dans les musées, qui doivent rester musées, parce qu'on conserve et on présente des objets, mais on doit aussi rendre compte et permettre d'autres expériences, un petit peu raconter des histoires à partir des objets, mais un peu comme au cinéma.
Alors restons sur cette thématique du public. Est-ce que vous pourriez nous brosser le portrait du visiteur type? Et d'ailleurs, est-ce qu'il existe vraiment? J'imagine que vous avez des visiteurs, bien évidemment, de la région, mais sans doute aussi au-delà. Est-ce que la présence dans les guides touristiques aide beaucoup? Est-ce que cette architecture assez incroyable joue également un rôle?
Alors, je pense que l'architecture participe de l'attraction du musée, bien sûr. Mais pas uniquement. Aujourd'hui, il y a les guides, il y a la réputation du musée, puisque le musée commence à être véritablement, a pris sa place dans le paysage muséal français, mais aussi national, enfin international. Donc le public, il est à la fois, on a quand même un visiteur sur trois qui vient de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est un ancrage réussi sur le territoire. Et pour moi, c'est fondamental, parce qu'on ne peut imaginer aller plus loin si on n'est pas ancré sur son territoire. Donc ça, je trouve vraiment assez formidable. On a un public familial aussi. On a une grande part du public, c'est 4 visiteurs sur 5 qui viennent accompagner. Alors pas forcément en famille, mais qui viennent accompagner. On a un public jeune. L'âge moyen de nos visiteurs est en majorité de 33 ans, donc c'est un public vraiment jeune. Ça aussi, c'est très positif. On a aujourd'hui, alors le Covid a joué dans la typologie du visitorat, on avait 20% des visiteurs étrangers avant le Covid. Aujourd'hui, on est 10, 11%. Enfin, là, on regarde chaque mois un petit peu, mais le public étranger vient aussi au musée. Et puis, ce que je trouve, on a un public très mêlé et on a aussi une part du public qui vient pour la première fois dans un musée. Et c'est 6% de notre visitorat. Aujourd'hui, sur 654 000 visiteurs, qui était le chiffre de 2022, c'est quand même assez considérable. Et c'est donc un public qui n'a pas forcément les codes du musée. Et j'ai une petite anecdote que je trouve assez charmante à raconter, c'est que ce public qui se sent bien dans le musée, c'est vrai que c'est un retour qu'on a assez. Et un dimanche, je me souviens d'une famille qui, installée dans une salle permanente, se trouvait bien, n'avait pas du tout les codes d'un musée, et a sorti son pique-nique. Et c'était assez formidable de voir ça. Et après, c'est tout un travail de se dire comment on donne les codes du musée sans décourager ce visitorat qui se sent bien. Donc c'est aussi un lieu de vie et je trouve que c'est important. Et c'est pour ça que j'aime faire ce métier.
C'est un petit peu votre façon de contribuer à changer le monde à votre échelle.
Je pense que les musées sont des lieux essentiels et sont des lieux fondamentaux. Oui, c'est fondamental le musée parce que c'est un lieu à la fois d'instruction, c'est un lieu où la parole est sûre et il n'y en a pas tellement. Et c'est un lieu qui peut aider, je pense sincèrement, à comprendre la complexité du monde dans lequel on est. Donc je crois qu'on a une mission qui est forte et c'est peut-être en ce sens que le musée peut aider à changer le monde, en tout cas à s'ouvrir au monde et il y a une compréhension du monde, une compréhension des autres. C'était d'ailleurs le projet initial d'Émile Guillemet quand il crée son premier musée Guillemet à Lyon, c'était de faire un musée de la pensée humaine, un musée qui aiderait les hommes à mieux vivre ensemble. Et je crois que les musées peuvent jouer ce rôle et qu'aujourd'hui, c'est essentiel.
Donc ce sont aussi des lieux refuges, des lieux de réflexion.
C'est des lieux de, oui, des lieux d'instruction, des lieux d'émerveillement, des lieux refuges, des lieux où on peut tout d'un coup s'échapper de son quotidien, prendre une forme de recul sur ce que l'on vit. Et je crois que c'est effectivement essentiel. Je réalise à l'instant que je me suis trompée dans la part du public régional. C'est pas 1/3, c'est 2/3 visiteurs qui viennent de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un chiffre réellement important et qui illustre combien ce musée est ancré dans son territoire.
Alors Hélène Lafoncouturier, comment vos expériences passées, notamment à l'international, continuent à nourrir ce projet du musée des Confluences qui est en évolution constante ?
Oui, parce qu'un musée doit être adaptable et doit répondre à la société. Donc on ne peut pas être figé, ça je pense qu'il faut. Et puis je crois que c'est très important d'être agile et adaptable, et c'est ce qu'est ce musée. Et j'espère qu'il le restera toujours. En fait, le musée, il est fondé quand même sur une approche un peu particulière, un peu à l'image du site qu'il accueille, où confluent finalement la Saône et le Rhône. Et le musée a inventé un peu ce même principe de mêler les objets, les approches et les disciplines. Et lorsque on voyage, en tout cas pour moi, mais ça peut être aussi dans le tram, mais dès que je m'éloigne du musée, en fait, souvent on prend un recul et puis les idées peuvent naître. Mais récemment, là, je reviens du Vietnam où on est allé inaugurer des cabanes à histoire. On a créé ce dispositif qui est une forme d'extension du musée, un petit bout du musée qui se déplace sur le territoire et qui est allé jusqu'à l'aéroport. Et ces cabanes, en fait, on a participé pendant 2 ans à la formation du personnel des musées d'Ho Chi Minh et de Hue, en termes de médiation, de communication, de connaissance de leur public. Et ils ont souhaité reproduire notre modèle de cabane. Et donc, je suis allée inaugurer nos 2 premières cabanes à histoire, qui sont des dispositifs qui vont à la rencontre du public et qui proposent une immersion sonore qui aide à s'ouvrir au monde. Et cette idée de cabane, elle est née lors d'un précédent déplacement dans un autre musée où, le temps du trajet, je me suis dit, il faut qu'on imagine un dispositif. J'avais pensé à un fauteuil, bon, c'est devenu une cabane pour des raisons techniques. Mais oui, je pense qu'en fait, on se construit différentes expériences et les choses naissent aussi d'expériences, mais de rencontres avec les autres, jamais tout seul.
Et en fait, un musée, c'est aussi la promesse d'un voyage, oui, qu'il soit intérieur ou à la découverte d'autres horizons. Traditionnellement, on voyage beaucoup quand on va au musée des Confluences. Qu'est-ce qui guide ce lien entre l'ici et l'ailleurs ?
Alors, il y a déjà l'emplacement géographique. Il y a cette adéquation entre ce site, le projet du musée, le nom du musée. Cette architecture, elle est bâtie un peu comme un pont que l'on traverse et qui traverse. Et quand on est dans le bâtiment et que l'on regarde le site de la Confluence, cette perspective incroyable de la Confluence, moi, j'ai toujours eu le sentiment d'un voyage. Déjà, je pars. Et je pense que le visiteur, dans le bâtiment, il fait un voyage à travers les différentes expositions permanentes qui ont des scénographies immersives, mais chacune de signatures très différentes. Donc souvent les visiteurs me disent, mais on a l'impression d'avoir visité plusieurs musées, chaque salle est différente. Et puis on ouvre aux cultures du monde, c'est un musée qui ouvre au monde, et je crois que c'est essentiel de partir comme ça, et une forme on part vers les autres et on part à travers le monde.
Et d'ailleurs, à titre personnel, vous préférez voyager dans votre musée ou dans la réalité ?
Alors moi, j'aime les voyages, de façon générale. J'aime les voyages dans mon musée, mais j'aime aussi prendre le Rhône Express pour pouvoir aller au-delà. Le Vietnam, on s'envole. Et j'aime ce sentiment, vous savez, quand on s'envole, de décollage qui part vers l'ailleurs. Et le musée offre un voyage et on peut partir très loin dans sa tête, mais on peut partir aussi physiquement, avec certaines émotions.
Est-ce qu'il reste un voyage, j'imagine qu'il y en a même plusieurs, mais un voyage inédit, jamais encore proposé, dans lequel vous aimeriez emmener les visiteurs du musée des Confluences. Une sorte d'exposition rêvée, je puis dire.
Une exposition rêvée, pour moi, serait une exposition que l'on n'arriverait pas à quitter, dans laquelle on aurait envie de s'inscrire durablement. Mais ça serait une exposition aussi qui donnerait une large place à l'image, une image dans laquelle le visiteur pourrait et se projeter et se réparer quelque part ou aller plus loin, qui offrirait une vision du monde dans sa globalité. Et une exposition dans laquelle chaque visiteur pourrait projeter l'image qu'il souhaiterait avoir. Et en fait, je rêverais de trouver un dispositif dans lequel le visiteur pourrait projeter sa propre envie et sa propre vision du musée, et que toutes ces visions puissent se succéder, peut-être même s'afficher ensemble. Oui, je ne sais pas comment faire cette exposition, il me reste encore quelques années pour l'imaginer, et j'espère qu'on pourra la proposer au public un jour. Il faut rêver, il faut toujours rêver. Et je pense que dans un musée, il faut oser. Je crois que oui, l'audace est important, c'est aussi un mot important pour une institution. Il faut oser, il faut avoir de l'audace, il faut aussi savoir résister. Et puis, il faut croire aux choses et emporter le visiteur dans ce qu'on a envie de lui montrer.
Vous parlez d'audace, est-ce que dans les expositions qui ont déjà lieu, est-ce qu'il y en a une en particulier audacieuse et qui a trouvé son public, un pari réussi ?
Ben, il y a eu beaucoup de paris réussis malgré tout. Il y a eu de l'audace à différents niveaux. Il peut y avoir de l'audace dans une thématique. C'est vrai que le jour où j'ai proposé l'exposition prison, c'était quelque part audacieux parce que est-ce que cette exposition pouvait rencontrer un public ? Ça a été le cas. Et ça a été le cas d'un public aussi familial. Cette exposition malheureusement n'a pas pu être présentée aussi longtemps que prévu en raison du Covid, mais c'est une exposition qui a eu une belle fréquentation et une fréquentation familiale, ce qui nous a beaucoup et adolescents, les adolescents sont beaucoup venus. Après, il y a de l'audace parfois quand on décide très vite un projet qui s'ouvre. Ça a été le cas d'Antarctica où on a décidé l'exposition pendant l'été, elle a ouvert au printemps. Ça, c'est un record dont on se souvient encore.
Et est-ce que vous avez parfois justement des surprises par rapport à cet accueil du public sur une expo en particulier ? Est-ce que finalement on retrouve un petit peu le public qu'on a espéré ?
Alors on est souvent, on est malgré tout, oui, on retrouve le public que l'on espère. Parfois il y a des expositions qui prennent un peu plus de temps à rencontrer leur public, il est vrai. Mais globalement, je trouve que ce musée, dans son offre très diversifiée, on vient pour une exposition, puis on va découvrir les autres. Donc, quelque part, chaque exposition finit par trouver son public.
On aperçoit les ailes réalisées par un autre architecte, celle de Calatrava. Et les terminaux de l'aéroport sont proches. Ce lieu qui vous inspire sur notre trajet, expliquez-nous pourquoi vous l'avez choisi.
Je l'ai choisi parce que pour moi, il évoque toujours cette idée. Il évoque la même idée de voyage que le musée des Confluences. J'ai l'impression, quand je vois, c'est pour moi c'est comme deux grandes ailes, c'est l'envol. Enfin, c'est aussi un sentiment de liberté, d'évasion, d'échapper. Et en fait, on rêve déjà à l'approche quand on voit le bâtiment apparaître. Le départ est déjà commencé. Enfin, on part. Et puis, pour moi, c'est effectivement ce lieu où on a déjà présenté la Lozor, une proposition qui avait été offerte. La cabane était au sein de l'aéroport. Et quand je vois ces grandes ailes, eh bien, j'ai envie que le musée investisse aussi ce lieu de l'aéroport où finalement les visiteurs, se croisent et puis viendront peut-être au musée après avoir vu une forme de similitude entre ces grandes ailes et le bâtiment coffre Confluence avec sa vue sur la confluence de la Saône et du Rhône.
Alors, comme vous l'avez déjà fait donc à l'aéroport, est-ce qu'il existe un lieu idéal où vous imagineriez exposer une pièce inédite ?
Alors, ça pourrait être les airs, avec l'avion, je ne sais pas où. Hein, sur... Mais sinon, j'aimerais beaucoup jouer sur l'eau. Je trouve que cet emplacement incroyable entre ces deux cours d'eau, est-ce que, voilà, présenter des pièces qui pourraient remonter le fleuve et rencontrer les habitants qui sont le long. J'aimerais beaucoup tenter l'expérience. Après, voilà, il y a certainement des tas de raisons techniques à surmonter, des difficultés techniques, mais ça pourrait être un joli rêve et peut-être une belle réalisation un jour que de faire voyager sur le Rhône et la Saône des pièces de collection.
Donc c'est un appel éventuellement relancé aux bonnes volontés.
Absolument. En tout cas, c'est toujours un souci de voyage et de rencontre, d'aller vers les autres. Je crois que c'est ça qui est le musée des confluences et ce que je ressens quand j'arrive à l'aéroport aussi.
Alors Hélène Lafoncouturier, il est l'heure de redescendre de Rhône Express et de partir vers d'autres horizons. Encore un grand merci d'avoir accepté ce voyage en notre compagnie.
Merci à vous.
Double Voix, c'est fini. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le liker, le partager et à en parler autour de vous. Et rendez-vous très bientôt pour un nouveau voyage.